Bonjour à chacune, à chacun. Et vraiment, en ce début d'année, c'est une joie de nous retrouver avec ces temps mis à part pour le Seigneur, mis à part pour l'écoute. L'écoute de sa parole. Et cette semaine, ce début d'année, nous allons aborder. Suite au plan de notre union d'église sur l'écoute de Dieu, un chapitre en quelque sorte sur une écoute qui me déplace. Attention, écouter Dieu comporte des risques. Et si je l'entendais? Et s'il me demandait de prendre une autre direction, de changer, d'être bousculé dans mes habitudes rassurantes, dans mes croyances bien établies. Et s'il me demandait de me lancer dans des projets que je ne maîtrise pas de A à Z, saurais-je aller jusqu'au bout de mon écoute? Cette semaine, nous vous propose de découvrir en quoi l'écoute de Dieu nous déplace. Je propose tant de prières. Merci Seigneur, merci pour ta parole qui nous éclaire. Merci parce que tu nous parles de toutes sortes de manières et pour que nous puissions tisser de plus en plus serré ce lien qui nous unit à toi. Merci pour ton Église, merci pour son témoignage. Merci pour ces temps mis à part pour toi, en ce début d'année et tout au long de l'année, Seigneur. Nous voulons nous appuyer sur toi en regardant aussi tout ce que tu as réalisé dans nos vies. Merci pour ta présence bienveillante. Merci Père. Loué sois-tu. Bénis ces instants. Amen. La lecture du texte se trouve dans la première lettre de Samuel, au chapitre 16. Nous en lirons les 14 premiers versets. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe de Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire. » Pour roi. Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, « Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » Tu inviteras Isaïe au sacrifice et je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit, « Oui. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous, venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Éliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici, devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Aminadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont ceux-là tous tes fils ?» Il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Voilà, jusqu'ici notre lecture. Donc le contexte, hein, il s'agit dans ce texte de 1 Samuel 16 d'un moment crucial de l'histoire d'Israël. Le roi Saül, le premier roi d'Israël, a désobéi à Dieu et est rejeté par lui en tant que roi. Dieu appelle alors le prophète Samuel à se rendre à Bethléem pour oindre un nouveau roi parmi les fils de Jessé. Et ce fameux verset, nous connaissons tous, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Tout ce chapitre souligne l'importance de l'écoute attentive de Dieu, qui voit au-delà des apparences, discerne les véritables qualités du cœur. Le choix de David montre que l'écoute de Dieu nécessite de mettre de côté nos propres jugements, nos préjugés, pour se conformer à sa volonté, à sa perspective divine. Observons ce texte, qu'est-ce qu'il nous est dit ? Dieu envoie Samuel et oindre un nouveau roi qu'il a choisi. Il est rappelé que dans le Deutéronome, chapitre 17, verset 15, c'est l'Éternel qui choisit le roi et qui choisit de le changer. C'est l'Éternel qui a tout pouvoir sur ce choix du roi d'Israël. Et Samuel a tout simplement peur d'être tué par Saül. Mais comme Saül essaiera aussi plusieurs fois de tuer David, et toutes les fois Dieu protégera David, Dieu là aussi a protégé Samuel et il lui demande d'offrir un sacrifice et ça renvoie à un moment où David et Jonathan doivent manger ensemble auprès de Saül et Saül a projeté pendant ce repas de tuer David et Jonathan va expliquer à Saül que David est parti offrir un sacrifice à l'Éternel. On retrouve cette histoire dans 1 Samuel 20. Samuel a remarqué d'emblée les qualités d'Éliab, le fils aîné d'Isaïe. Il est grand, une belle apparence, probablement une teinte rousse ou un teint roux. Et c'est exactement comme ça qu'est décrit Saül quand il est oint roi d'Israël. Et on peut penser que pour Samuel, tiens, il y a une correspondance. Saül a été choisi, sa grande taille, sa belle apparence. Éliab a une grande taille, une belle apparence. Il est là pour oindre le roi d'Israël. Mais ce n'est pas ça. C'est pas ça du tout. La réponse de Dieu à nos attentes, à ses choix, n'est pas stéréotypée. Justement parce que l'Éternel ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et Jésus dira la même chose aux pharisiens, dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, verset 15, Jésus dit aux pharisiens, « Vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu considère vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. » Essayons de comprendre pourquoi Samuel craint la réaction de Saül lorsqu'il reçoit l'instruction de Dieu. Et il craint que Saül ne la prenne et le tue. Et il n'est pas toujours facile d'obéir à Dieu. Cela peut conduire parfois même à des persécutions, voire à la mort. Dans l'Ancien Testament, je viens en tête un exemple célèbre, c'est celui de Jonas qui part de l'autre côté de la mer par rapport au commandement de Dieu, parce qu'il a peur. La réponse de Dieu face au choix de loin nous enseigne des qualités fondamentales de Dieu. Un petit peu comme dans Jésus le rapportera en Matthieu 7 aussi, lequel de vous offrira à ses enfants une pierre s'il demande un poisson ou un serpent. Et cela renvoie à la qualité de père, de mère, de Dieu pour nous. Pas seulement un Dieu tout-puissant, mais un Dieu qui se soucie des besoins de ses enfants. Dieu a choisi le plus jeune et en plus un berger. Vraiment, pas de quoi. C'était pas une profession très en vogue à l'époque. Cela a tout pour déplacer Samuel qui doit remettre en question ses attentes. Pourtant, possiblement fondées sur l'écriture, puisqu'il avait vu les mêmes critères entre Saül et Eliab, mais non. Il s'agit d'une écoute plus profonde, qui elle aussi va au-delà des apparences. Oh, Samuel, d'accord, mais c'est vieux, l'élection du roi David, c'est vieux, quelques siècles avant la venue de notre Seigneur. En quoi ça nous concerne, l'écoute de Samuel? Comment pouvons-nous appliquer l'enseignement et regarder au cœur et non à l'apparence dans nos relations, dans nos décisions quotidiennes? De quelle manière peut-on surmonter nos peurs et nos réticences pour obéir à une direction que l'on sent pourtant venir de Dieu, même si cela implique des risques ou des déplacements importants dans notre vie? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous l'avez reconnu, c'est un écrit de Paul quand il écrit aux Romains, chapitre 12. Oui, l'écoute de Dieu nous pousse à une transformation profonde. En nous ouvrant à sa parole, nous permettons à notre esprit d'être renouvelé, d'être transformé. Cela nous aide à discerner sa volonté et à aligner notre vie avec ce qui est bon, agréable et parfait à ses yeux. Cette transformation, c'est un processus continu. Ce n'est pas juste un épisode, c'est continu. Ça exige la persévérance et la confiance. Et peut-être qu'on peut se poser quelques questions. Quels aspects de ma vie ai-je besoin de renouveler et de transformer pour mieux être aligné avec la volonté de Dieu ? peut-être renouveler mon regard sur moi, mon regard sur les autres. Puis-je regarder comme Jésus nous regarde, me regarde? Et puis une autre question, comment puis-je intégrer davantage l'écoute de Dieu dans ma routine quotidienne pour favoriser cette transformation? Pas de recette magique. La prière, prier régulièrement notre Seigneur, être en contact avec lui dans la prière. La lecture, la méditation de sa parole, là encore, rien de nouveau. S'enrichir jour après jour de ce que Dieu a à nous dire par sa parole. Les échanges avec un pasteur, les échanges avec des frères et sœurs, autant de choses qui peuvent me transformer pour marcher dans la volonté de Dieu. Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est un morceau de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12. Oui, l'écoute de Dieu peut parfois nous amener à une forme d'intranquillité, nous poussant à remettre en question notre confort, nos certitudes. Cette intranquillité n'est pas forcément négative. Elle nous pousse à chercher la paix véritable et la sanctification. En écoutant Dieu, nous sommes appelés à aller au-delà de notre zone de confort pour embrasser les défis qui nous rapprochent de sa volonté. Là encore, quelques questions. Quel domaine de ma vie, au pluriel, me cause une intranquillité et comment puis-je y répondre en écoutant Dieu? Suis-je bien à ma place dans ma famille, dans mon travail, dans l'église, dans mes loisirs, dans tout ce qui comporte ma vie? Et en tant que soignant, j'ai dû apprendre que la première étape dans la démarche de soins, c'est d'essayer de comprendre, d'essayer d'avoir un diagnostic. Et quand on a un diagnostic, c'est plus facile de proposer un traitement efficace. Avoir un diagnostic, ne pas se tromper soi-même et donc de dépister toutes ces causes d'intranquillité là où je me trouve dans mon univers. Et comment je puis chercher activement la paix, la sanctification dans mes relations, dans mes actions quotidiennes. Et en y réfléchissant, d'abord, paix et sanctification dans ma relation avec mon Seigneur, qui saura me montrer mes domaines d'intranquillité à vivre dans mon quotidien, intensifier cette relation avec le Seigneur. Va, car je t'enverrai au loin, vers les nations. Verset bien connu des Actes des Apôtres au chapitre 22. Oui, lorsque nous écoutons Dieu, nous sommes souvent appelés à bouger, à sortir de notre zone de confort, à aller vers des lieux ou des situations inconnues. Cet appel au mouvement, il peut être physique, géographique, il peut être spirituel, il peut être émotionnel. Dieu nous envoie vers les autres pour partager son amour et accomplir sa mission. Chaque pas que nous faisons en obéissance à son appel nous rapproche de notre véritable destinée en lui. Et là encore, ce n'est pas sans nous poser des questions. Quel est le prochain pas que Dieu m'appelle à faire pour avancer dans ma foi et ma mission? Un pas qui me vient à l'évidence, mais c'est ne pas juger mon prochain. Peut-être m'engager dans le service dans l'Église, mais un service bien compris, différent d'un activisme, et qui rende compte de mon écoute et du mouvement qu'elle entraîne. Et alors se pose une autre question, comment puis-je me préparer spirituellement et pratiquement à répondre à l'appel de Dieu au mouvement dans ma vie? Là encore, prière, écoute de la parole, échange avec d'autres chrétiens, lecture de livres intéressants, comprendre dans les événements de ma vie qui surviennent. Essayer de déterminer quel est le mouvement auquel Dieu m'appelle. Physique, spirituel, émotionnel, peut-être les trois à la fois. Dans ce lien tissé avec notre Seigneur. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Là, on n'est plus dans le Nouveau Testament, on est dans l'Ancien, on est dans le Deutéronome, chapitre 30. L'écoute de Dieu nous confronte souvent à des choix difficiles. Il nous appelle à choisir la vie, à prendre des décisions qui favorisent notre croissance spirituelle et notre bien-être en tant que croyant. Ces choix, bien que difficiles, sont aussi des opportunités pour manifester notre confiance en Dieu. En choisissant selon sa volonté, nous trouvons une vie pleine et vraie. Et alors, quel choix difficile suis-je appelé à faire actuellement et comment puis-je discerner la volonté de Dieu dans ses décisions? Peut-être des choix à faire concernant l'utilisation de mon temps. Des choix à faire concernant mon attitude vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de toutes celles et tous ceux qu'il met sur ma route. Dans mes choix avec mes biens matériels. Des choix dans mes besoins. Et les priorités à établir et à respecter. Et alors, comment puis-je renforcer ma foi et ma confiance en Dieu pour faire des choix qui honorent et glorifient sa volonté? Bon. Moi, je ne connais qu'une personne qui est fait un sans faute. C'est bien notre Seigneur Jésus vers qui il faut regarder. Et ne serait-ce que dans les récits des évangiles, il y a parfois des épisodes que nous traversons que Jésus a déjà décrit, a déjà vécu, et regarder les chemins qu'il a empruntés peut tout à fait être formateur pour nous, pour moi. Regardez aussi au témoignage d'autres chrétiens, dans l'histoire bien sûr, mais aussi d'autres chrétiens autour de moi, dans mon église, en dehors de mon église. Heureux l'homme qui persévère dans l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. J'ai reconnu les paroles de l'apôtre Jacques, premier chapitre, L'écoute de Dieu nous appelle souvent à persévérer malgré les difficultés et les épreuves. Cette persévérance est bien sûr un témoignage de notre foi, de notre amour pour Dieu. En restant fidèles à sa voix et à ses promesses, nous sommes transformés, renforcés. La récompense de notre persévérance est la couronne de vie, la plénitude de la vie en Dieu. Et dans quelle situation ai-je besoin de persévérer en écoutant la voix de Dieu ? Pas de recette inédite. La prière, la lecture de sa parole, le partage avec les frères et sœurs, le partage avec chaque être humain. Comment puis-je trouver la force et le courage de persévérer dans ma foi malgré les épreuves, malgré les défis? Peut-être voir le témoignage des chrétiens qui ont traversé des épreuves et des défis semblables, le témoignage de l'Écriture aussi, et toujours renforcer en permanence ce lien qui me relie à Christ. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, bien sûr, verset 19. L'écoute de Dieu nous envoie en mission à partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec le monde. Et cette mission est une invitation à participer activement au plan de Dieu pour l'humanité. En écoutant sa voix, nous sommes guidés vers ceux qui ont besoin d'entendre le message. Un message d'amour, un message de salut. Notre engagement à cette mission est une réponse à l'appel de Dieu à transformer le monde par son évangile, par sa bonne nouvelle. Et alors, comment puis-je répondre concrètement à l'appel de Dieu à faire des disciples dans ma vie quotidienne? J'aurais surtout envie de pointer les différents pièges possibles, comme un certain activisme, une relation superficielle avec un Dieu qui est pris non pas pour ce qu'il est, mais plutôt pour un distributeur de bénédictions. Hein, c'est ce que nous rapportait notre frère Thierry Mathieu. Non, c'est pas, le Seigneur n'est pas un distributeur où on va appuyer sur un bouton pour recevoir des bénédictions. Avoir une vie qui puisse témoigner de sa paix, de sa fidélité, de son amour. Et attention à la parabole de la paille, de la poutre. Commençons par ôter notre poutre, nos poutres de nos yeux, avant de voir ce que vous en proposez pour la paille du voisin. S'inscrire sur un témoignage au long cours, parfois moins spectaculaire, mais respectueux de l'autre, de ses croyances, de ses manières de fonctionner. J'ai été confronté dans mon métier à des chrétiens qui louaient le Seigneur, le soleil brillait, alléluia, Dieu est grand. Et puis, les nuages arrivaient et il n'y avait plus de Seigneur. Attention à ce côté un peu superficiel, un peu spectaculaire. Et quel talent, quelles ressources puis-je utiliser pour contribuer à la mission de Dieu et partager la bonne nouvelle avec les autres? Faire en sorte, par mes relations avec les autres, par mon travail aussi, que mon Église demeure un endroit où l'Évangile peut être proclamé dans toute sa vérité, dans tout son amour. Et c'est ce que je nous souhaite pour notre Église, pour cette année à venir, que nous puissions témoigner de sa vérité avec amour. Et dans le cadre d'une écoute qui déplace, juste un verset. Trop bien connu, et comme toujours les versets trop bien connus, on les oublie. Mais quand même, ça fait réfléchir. Matthieu 9:9. De là, étant allé plus loin, Jésus fit un homme assis au bureau des péages qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Fin du verset. Des réflexions à nous faire sur un appel de Dieu qui nous déplace. Louons-le pour cette année à venir. Amen.